Oui, je voudrais revenir sur un cas particulier, l'asthme. Bon, c'est pas une maladie anodine, ça entraîne plus de 2000 cas de décès par année. Et ça a ceci de particulier que, comme c'est un peu itératif les crises d'asthme, les patients ont du mal à penser qu'il s'agit d'une maladie chronique. Ils pensent que ils ne sont pas des malades chroniques, ils ont ça de temps en temps, donc ils ont un spray au fond de la poche, ils s'en servent, quand ça ne marche plus, ils vont aux urgences. Et là, véritablement, il y a une sorte de fossé entre l'offre et la demande. On peut considérer qu'actuellement, des espaces du souffle, espaces de l'asthme, écoles de l'asthme, etc., quelle qu'en soit l'appellation, sont assez bien distribués sur le territoire. Et les personnes qui s'occupent de ces structures ont été formées. Et la plupart des programmes sont vraiment adaptés, incontestablement. Mais ils ont un problème de recrutement, en raison de ce que je disais. Et je rapproche ça de la notion de health literacy. Au fond, de compréhension de ce qu'est la maladie véritablement. Et c'est là que pourrait se mettre en place quelque chose qui a été démarré en Écosse et dans le Royaume-Uni, à savoir éducation thérapeutique et urgence. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas repartir des gens qui ont fait une crise gravissime sans faire quelque chose pour leur donner ne serait-ce que quelques éléments d'éducation ou les diriger vraiment fermement vers un lieu, une équipe qui les éduquerait. Parce que c'est assez probablement justement les personnes qui auraient le plus besoin d'éducation qui se retrouvent là, clients des urgences.
Et tu as bien dit qu'il faudrait les diriger fermement. Et donc là, on est dans un petit souci. Je respecte l'autonomie jusqu'où. Mais en tout cas, ça, c'est une évidence. Et puis on en discutait assez volontiers dans les Pays de la Loire, avec Patrick Lamour et toute sa bande. Effectivement, l'école de l'asthme, qu'on n'appelle pas une école de l'asthme quand même, mais bon, voilà, la structure d'éducation accueille des malades programmés, et c'est pas forcément ceux qui ont le plus besoin d'être éduqués. Voilà. Mais après, comment on s'y prend? Est-ce que l'Écosse a raison?
Oui, moi j'ai
question courte,
parce que, réflexion, voilà. Oui, surtout c'est parce que du coup, il y a quelque chose qui m'a un petit peu frappée, qui a été que l'ETP bénéficie à ceux qui n'en ont pas le plus besoin. Et je me pose en fait cette réflexion pendant tout le diaporama qui a été, mais qui en a le plus besoin finalement? Parce que, est-ce que les inégalités sociales font qu'on a plus besoin d'éducation thérapeutique? Je ne crois pas. Tout simplement, expérience dans les ateliers collectifs, quand il y a une mixité sociale, il y a un décloisonnement justement de ces classes socio-économiques, où finalement un ouvrier peut apprendre au cadre à gérer au quotidien sa maladie, ne serait-ce que par en fait, des échanges d'expériences de vie, des trucs et astuces du quotidien. Et donc l'échange en fait, qui va s'opérer entre patients, ils sont là parce qu'ils ont une même pathologie, des mêmes problématiques vis-à-vis de cette pathologie. Ils ne sont pas là pour discuter de ce qu'ils ont forcément mangé à Noël, est-ce que c'était du caviar ou est-ce que c'était la marque X ou Y d'une grande surface assimilée caviar. C'est pour dire vraiment que est-ce qu'on c'est pas une problématique soignant et institutionnelle de vouloir dire ceux qui en ont le plus besoin seraient stigmatisés soit par des catégories socio-professionnelles ou par d'autres critères que de se dire que finalement celui qui en a besoin c'est celui qui exprime une demande, un besoin, même si des fois cette demande ou ce besoin a été préalablement un peu incité par un soignant. Parce que de toute façon, même s'il vient aux séances, qu'elles soient individuelles ou collectives, c'est qu'il vient chercher quelque chose, et donc ça veut dire qu'il est ressorti avec un quelque chose.
Je peux répondre, Jeff? Évidemment, merci de l'interpellation. J'ai été stupide, hein. Mais quand même. J'ai un peu manqué de finesse, si ça que tu veux dire. On a tous besoin, voilà, d'être éduqués. Mais on a plus ou moins de facilité à apprendre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, on a plus ou moins de facilité à rejoindre les dispositifs où on peut nous apprendre à apprendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça, je suis sûr Je ne l'ai pas mesuré encore, mais enfin, voilà, mon hypothèse, avec un degré quand même de confiance assez élevé, c'est que n'accède pas qui veut à ces dispositifs. Voilà, et qu'on doit travailler là-dessus. Et l'exemple que donne Jean-François, malheureusement, tente à me donner raison. Voilà, mais on ne dit pas deux choses incompatibles. Qu'ensuite, à l'intérieur du groupe, il puisse y avoir une certaine mixité sociale et que, voilà, si le groupe est bien géré, voilà, on puisse se parler encore dans ce pays. Enfin bon, voilà, je vous rappelle quand même le ghetto français, la segmentation de plus en plus ferme des territoires en fonction de la couleur sociale de leurs habitants. Voilà, c'est des problématiques extrêmement lourdes dans ce pays, hein, celle de la segmentation sociale.
Oui, non, mais on va prendre que deux interventions parce que le temps passe, il pourrait y avoir des échanges. Alors, madame, voilà, et puis Dany Beau. Thomas, tu réserves ? Non. On arrêtera là.
Je voulais juste me permettre une réflexion. J'ai beaucoup exercé aux urgences pédiatriques et du coup, l'urgence éducative aux urgences pédiatriques, elle est difficile parce que les patients sont dans une situation où du coup, ils sont dans l'urgence vitale et il y a l'urgence éducative en même temps. Et du coup, c'est difficile dans un système de soins en France où prendre soin se résume aux soins portés et à la valeur en fait, du soin éducatif. Aujourd'hui, on n'a pas de reconnaissance du soin éducatif. C'est extrêmement difficile de promouvoir de l'éducation aux urgences parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Enfin, faire un aérosol pour une infirmière, c'est facile. Qu'on nous laisse le temps d'expliquer aux patients comment bien prendre ces traitements, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Et toute la difficulté de l'exercice aux urgences éducatives, en tout cas.
Enfin, la difficulté, elle est massive. Hein. Et en plus, ça s'appelle besoin compétitif. Et madame, voilà, il faudrait continuer à en discuter. Est-ce que vraiment les malades que vous voyez dans ces situations-là sont dans les dispositions d'esprit suffisamment sereins pour que, quoi, hein, voilà, en plus hein. Non, mais voilà.
Je ne voulais pas monopoliser le temps, mais oui, c'est la difficulté aussi aux urgences que du bon temps éducatif aussi, parce que l'urgence vitale et l'urgence éducative sont pas les mêmes, sont souvent pas ensemble, enfin sur le temps en tout cas.
Dany,
bon, c'était juste pour ça va tout à fait dans le sens que vous dites, enfin sur ce sujet-là, c'est finalement rendre l'éducation accessible, c'est aussi d'offrir l'éducation là où les gens consultent. Et les urgences, c'est quand même un endroit où les gens vont et reviennent. Et je suis étonné sur la constatation que les gens reviennent aux urgences, ça consiste toujours à dire qu'il faut former mieux les médecins. C'est quand même épatant, parce qu'en fait, c'est former mieux les patients. Parce que je suis même étonné, il y avait un case report, une présentation dans New England, notamment avec une vignette, où finalement on prend un patient qui est allé 5 fois aux urgences dans l'année, et ça sert pour comment former les médecins. C'est quand même étrange, quoi. Parce que d'abord, je ne suis pas si sûr que ça, qu'aux urgences, ces situations soient toujours urgentes sur le plan vital. Pour en faire tous les jours, ça me paraît tout à fait discutable. C'est aussi un mode d'accès aux soins. C'est un mode où les gens ont du mal à se projeter dans le temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les urgences, c'est une porte à battants où les gens rentrent et ressortent. Ils ne rentrent jamais dans le système. Il faut prendre les portes de côté.
Alors, peut-être pour éviter une frustration, Thomas. Et puis, sinon après, en haut, mais court. Hein.
Non, je voulais juste savoir, au fond, quand vous parlez d'outils d'éducation populaire en disant que c'était des outils qui pouvaient aider, justement, est-ce que vous pouvez illustrer un peu ce propos ?
Tom, quand tu auras fini d'être désagréable, je te continuerai de parler. Non, j'ai dit justement que je ne les connaissais pas. Voilà, là, j'ai été prudent. Voilà, hein. Sauf que, je fais un peu le couillon, quand je croise des collègues québécois, eux, ils se sont soignés avant moi, et je vois effectivement des collègues de sciences infirmières, plutôt que de sciences médicales, entre parenthèses, utiliser des méthodes participatives qui permettent de recueillir l'expression de gens dont, habituellement, voilà, le système considère qu'ils ne sont même pas capables de formuler un besoin, une attente. Voilà. Je sais qu'il y a des méthodes, si tu veux, Thomas. Et je sais qu'il y a des méthodes qui permettent, de la même façon, de faire formuler à des gens qui n'ont pas le discours que nous utilisons, toi et moi, mais qui sont capables de signifier des choses de manière tout aussi précise que toi et moi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais là, il faut qu'on les apprenne, quoi, simplement. Hein.
Alors,
oui. Nadie de Nantes, du pôle de santé des Envierges. Donc, on est en train de monter une maison de santé avec des projets d'éducation thérapeutique. Et j'entends très fort quand même ce que tu nous dis, c'est que peut-être que si on n'y prend pas garde, l'éducation thérapeutique peut aggraver les inégalités sociales de santé. Elle s'aggrave dans le temps, depuis déjà plusieurs années, elle s'aggrave. Et peut-être que cet outil que depuis ce matin, je trouve c'est passionnant et il y a plein de choses à faire. Mais si on n'y prend pas garde, si on ne prend pas garde déjà à repérer les classes sociales de nos patients, et si on se dit « oh ben ils vont être ensemble », j'entends bien, ça peut être très... ça peut très bien se passer, des ouvriers, des cadres, tout le monde se mélange, mais dans les chiffres, ce n'est pas vrai. Dans les chiffres, elles s'aggravent, ces inégalités sociales de santé, et si nous, soignants, on n'y prend pas garde, si ce n'est pas un objectif de les réduire, on les aggravera. Donc c'est très intéressant d'y réfléchir.
Ben, j'ai fait passer ça, merci Maddy, c'est exactement ce que je voulais dire.
Une seconde, je monopolise la parole pour répondre aux outils, en fait. Donc les outils de l'éducation populaire, par exemple, vous disiez la cartographie sociale, c'est un outil en fait qu'a inventé Paulo Freire au Brésil. Donc et en fait, on se met debout autour d'une table, on met des feuilles et on n'écrit pas en fait. On se saisit en fait d'outils comme des feutres. Et par exemple sur une thématique comme justement, où on se sent bien sur le quartier. Eh ben, on va en fait définir en fait une grille commune, donc avec des gens qui n'écrivent pas nécessairement, hein, justement, et on va décider ensemble en fait d'une grille commune et d'un territoire commun, et en fait se rend visible, hein, à tout le monde dans la négociation commune de solutions en fait de pistes d'action à investir en fait sur un territoire. Après, il y a des tas d'autres outils. Par exemple, il y a le monsieur qui disait, par exemple, le photolangage pour parler de la santé. On a fait ça avec l'atelier Santé-Ville. Bon, en tout cas, si vous voulez aller voir ce qu'on utilise, nous, on est le Centre Social Archipelia sur le 20e et on utilise les outils d'une association qui s'appelle Quartier du Monde. Voilà, quartierdumonde.org et archipelia.org.
Voilà, moment de promotion, c'est important.